toujours à peu près 1,5 cm. Là, je sens qu'il y a un nœud dedans. Hein. Quand ça rentre pas comme ça du premier coup, ouais. J'ai l'œil de bardelier. Je sais que cette partie-là sera la partie supérieure, cette partie-là la partie inférieure. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est les, on va dire les deux tiers, voilà. Et surtout cette partie-là, je sais qu'elle va partir. Quand je vais parer, ça, ça part.
Entre cime et racine. Une émission de Radio Zinzine, réalisée en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Chez Marie et Thibault en Dordogne. Deuxième partie. Nous nous retrouvons donc en Dordogne sur la ferme de Thibault et Muriel Darvin à Rudeau-Lados. Il s'agit de la cinquième rencontre du réseau pour les alternatives forestières qui a réuni une cinquantaine de personnes venues de différentes régions du sud de la France. La rencontre a été organisée par Forêt sans âge, une association créée en 2009 par Thibault et par Marie Clessin, propriétaire d'une forêt de 14 hectares dans la même zone. Dans notre dernière émission, nous avons évoqué le chantier mené dans la forêt de châtaigniers sur la ferme de Thibault, afin de fournir le bois pour la construction d'une bergerie, mais aussi afin de sensibiliser un public plus large, surtout des professionnels de la filière bois et des propriétaires de forêts, à une gestion forestière qui respecte l'écosystème. Dans cette deuxième partie, nous donnons la parole à quelques-uns des artisans qui ont fait des présentations pratiques de produits issus de la forêt, comme la fabrication de bardeaux et de piquets, ou alors la vannerie, car on a tendance à oublier la vaste richesse que représente une telle forêt et la multitude de produits utiles qu'elle peut nous fournir. Commençons avec les bardeaux, en compagnie de Christophe Méroux.
L'avantage du métier de bardelier, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, quoi. Donc l'outil premier, ça va être le départoir, qu'on appelle départoir ou coutre, ou c'est un outil qui est semi-tranchant, qui a un biseau qui n'est pas forcément très coupant, mais qui va servir à départager le billon pour en faire des petites plaquettes de bois. Donc ça, c'est l'outil premier. Ensuite, en fonction des régions et des techniques, pour le parage, on va utiliser un bandane. Donc le bandane, c'est un petit établi que le bardelier met en fonction avec la force de ses jambes, donc pour coincer la pièce. Et on utilisera une plane, donc une plane à bardeaux. Il y a plein de types de planes, hein, mais une plane assez large en tout cas, et droite et surtout bien bien affûtée. C'est très important. Hein. Dans d'autres régions, on fait le parage avec une hachette. Alors, pourquoi tous ces outils? Simplement pour pouvoir obtenir une planchette de bois qui ait une partie, la partie supérieure, qui soit libre de toute coupure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte la fibre du bois de façon à ce que l'écoulement des eaux puisse se faire facilement, mais surtout que l'écoulement des eaux puisse se faire. Un bois qui serait scié s'imprégnerait comme une éponge, et à ce moment-là, la durabilité serait réduite. Hein. Donc le principe, on va fendre le bois et on va obtenir une petite planchette de bois qui va être en forme de sifflet. La forme de sifflet est importante pour la pose. Donc la partie supérieure sera plus fine que la partie basse, la partie inférieure. Donc c'est logique, hein, comme on empile ces plaquettes en décalage, il faut que la partie haute soit plus fine de façon à ce que le suivant ne becque pas, ne fasse pas un débordement. Alors la largeur, il n'y a pas d'impératif pour la largeur. Le seul impératif, c'est le minimum. Il faut qu'il y ait au moins 4 cm. De façon à ce que pour l'égout, lorsqu'on va utiliser un bardeau de 4 cm, qu'on soit sûr que dans l'égout, l'infiltration ne se fasse pas par le bardeau inférieur. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de largeur.
Mais on voit des régions où c'est nettement plus large.
Alors oui, en fonction du bois. Je travaille du châtaignier qui me permet de faire des bardeaux au maximum d'une douzaine de centimètres. Je pourrais faire des bardeaux plus larges sur du petit billon, donc du billon d'une vingtaine de centimètres. Le problème, c'est que on aura un bardeau avec au centre le cœur du bois, et donc ça l'affaiblit. Donc un bardeau comme ça, il est très large. Moi, je préfère le refendre en deux, faire deux bardeaux de 10 plutôt qu'un bardeau de 20, quoi. Alors par contre, vous prenez un résineux, un mélèze, un picéa ou un sapin, là, vous allez pouvoir faire des bardeaux très très larges. Donc dans un premier temps, il va falloir choisir malgré tout le bois idéal pour pouvoir fendre le bardeau. Donc en forêt, quand on fait une exploitation raisonnée, utile, chaque morceau de bois sera employé en fonction de sa forme et de sa qualité à quelque chose. En sachant qu'en dernier, on aura toujours du bois pour se chauffer. Donc pour le bardeau, il faut essayer de choisir des bois qui soient dépourvus de nœuds et en tout cas de gelure ou de roulure. Donc pour le châtaignier, on a difficulté à trouver du bois de qualité. Donc on essaye de trier, de passer entre les nœuds quelquefois. Donc on peut commencer à faire du bardeau à partir de bois d'une douzaine de centimètres de diamètre. En sachant que sur 12 cm de diamètre, vous allez faire deux bardeaux et point barre. Ça part à la trappe. Alors il faut du bois qui soit rance pour bien faire. Le bois vert se fend bien, le bois sec se fend difficilement. Le mieux, c'est d'avoir un bois qui a été abattu 4-5 mois auparavant, avant le travail. Donc suivant la qualité du bois, on arrive à sortir des bardeaux. C'était le dilemme d'hier. Thibaut me disait, est-ce que je suis obligé de te donner du bois de très bonne qualité? Alors ben non. Maintenant, si tu n'as pas du bois de très bonne qualité, il te faut plus de travail pour obtenir la même quantité de bardeaux. Tu as plus de déchets. Et bon, voilà quoi. Après, du bois de bonne qualité, elle m'a dit, écoute, moi, j'aurais peut-être meilleur temps de vendre mon bois de très bonne qualité et puis d'acheter les bardeaux tout faits. Je lui ai dit, il faut que tu fasses le calcul. Peut-être, c'est possible, hein, c'est possible. Maintenant, il y a moyen de trouver un compromis entre le bois d'extra qualité et puis qui peut partir en ébénisterie. Et puis le bois pour le bardage, quoi. Sur le châtaignier, bon, ici on commence à avoir du beau châtaignier, mais sur le sud du département, enfin plus au sud, c'est difficile, quoi. On a souvent beaucoup de bois déprécié par la roulure, par le jaune, par. Donc là, c'est inutile, quoi. Hein. C'est pas la peine d'espérer faire des bardeaux dans du bois de mauvaise qualité, quoi. Vous allez fournir du travail pour ne rien sortir, quoi. Puis la toiture, c'est un petit peu comme les fondations. Bon, les fondations, on n'y revient pas. La toiture, on peut y revenir. Mais bon, c'est quand même dans une maison, c'est quand même primordial, quoi. Si vous devez faire une toiture et puis que rapidement, on trouve des fuites, bon, c'est pas le top, quoi.
À l'époque, ici, dans la région, est-ce que la plupart des toits étaient faits il y a longtemps, quoi, avec des bardeaux, ou c'était plutôt exceptionnel?
Non, c'était exceptionnel. C'était, alors, historiquement... Il n'y avait pas de région particulière où le bardeau était utilisé. Par contre, le bardeau était utilisé beaucoup en ville, dans les bourgades. Et ça a été une des raisons pour lesquelles le bardeau est tombé en désuétude. Parce qu'en ville, toutes les maisons se touchaient. Et quand il y avait un incendie, rapidement, ça se propageait. Et puis, ça a été une des raisons pour lesquelles le bardeau a été remplacé par l'ardoise ou la terre cuite. Mais en campagne... Ici, on n'était pas une région où les gens utilisaient le bardeau. Ou alors, peut-être il y a fort longtemps, quoi. On utilisait peut-être plus facilement le chaume ou peut-être le genêt aussi et la tuile. En tout cas, ici, on est une région où il y a eu de la terre cuite depuis longtemps. Hein. Donc, si on avait à profusion ou de façon facile du chaume, on utilisait le chaume. Par contre, si on construisait ou on habitait dans un endroit où il y avait peu de culture, ben, on aurait plutôt utilisé du bois, quoi. Les grandes régions à bardeaux, ça va rester des régions où il y a de la forêt, bien sûr, où il n'y a pas l'argile, où il n'y avait pas l'ardoise. Bon, l'ardoise, ça a été quand même assez tardif. Hein. Ou alors où il n'y avait pas la pierre façonnable pour faire des toitures. À l'origine, les bardeaux étaient posés dans certaines régions, posés sur toiture et puis lestés. Donc ça, ils l'ont utilisé en Corse, en montagne, dans certains coins en montagne. Donc c'était lesté. Avec des perches et des pierres.
Aucun clou, là.
Aucun clou. Ils étaient lestés régulièrement. Bon, pas toutes les rangées, mais régulièrement, ils étaient lestés. La technique du cheville était beaucoup utilisée aussi. Bon, je pense qu'à l'origine, les clous, on n'en mettait pas. Donc, on mettait une cheville en bois.
Ça devait être très long.
Voilà. Donc, c'était très long, oui, bien sûr. Donc, on utilise cuivre ou inox pour le châtaignier, parce que sinon, le clou, il tiendrait pas longtemps, quoi. Il se ferait bouffer par l'acidité du bois. Le châtaignier est un bois qui est très, très acide. Hein.
Bah, du coup, la cheville de bois, c'est intelligent.
La cheville de bois, c'était intelligent, oui. Hein, ouais. C'était à l'époque où on avait le temps de vivre.
Ouais. On a le temps de tout faire.
Voilà, c'était à l'époque où on avait le temps de vivre.
Préparer l'hiver.
Ouais, voilà, c'était des petits boulots qui étaient faits l'hiver. Donc, Le bardeau, c'était, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'être, de sortir de Saint-Cyr pour fendre un bardeau. Alors, je vous fais voir un petit peu comment ça fonctionne.
Oui, tout à fait.
Bon, je vais prendre ce bois qui est fendu. C'est un bon exemple puisque c'est un bois qui n'est pas joli. Donc, ça vous permettra de voir pourquoi est-ce qu'on choisit du bois joli. Alors, donc je pose mon coutre à peu près à l'endroit du cœur. Hein. Alors le coutre, c'est l'outil, coutre ou départoir, c'est l'outil qui sert à fendre le bardeau. Quoi. Donc voilà, simplement, il y a un manche qui est un petit peu, qui a une petite inclinaison par rapport à la perpendiculaire de la lame. C'est pour avoir du dégagement par rapport à ce que tu fends. Je pose le coutre, j'amorce, et ensuite, je remue le manche de gauche à droite. Pour pouvoir descendre. Voilà, et ça fend. Donc vous voyez tout de suite ce qu'un nœud peut faire dans le bardeau. Bon, hormis le fait qu'on ait ce gros nœud, ici forcément, la fibre du bois, elle a une certaine ondulation. Voilà. Donc là, on reprend le même principe de tout à l'heure. Donc je vais fendre un bardeau ici, un bardeau de l'autre côté, un bardeau ici, un bardeau de l'autre côté. Donc le bardeau, moi j'aime des bardeaux qui soient un peu épais, donc je l'ai fait de à peu près 1,5 cm. Donc là j'aurai une coupe franche. Voilà. Donc vous voyez, ça part un petit peu, le premier est toujours joli, ça part un peu en sifflet. Donc je pose à plat, là il y a le nœud. Voilà. Alors on n'a pas toujours une plaquette de très bonne qualité. Malgré tout, ici, on va pouvoir en sortir quelque chose. On entend, ça craque. J'ai appris tout seul, ouais. Je fais partie d'une association sur le Périgord, de gens qui sont passionnés des traditions des vieux métiers et d'utilisation des outils. Et puis, donc, le collègue qui est président est plutôt axé sur la partie agricole, céréalière agricole. On fait régulièrement des manifestations et au cours d'une fête d'ébattage, il m'a dit « Tu te débrouilles comme tu veux, tu es originaire du Jura, je veux que tu me fasses des bardeaux. » Donc, bon, je travaille le bois à la maison quand même, hein, c'est pas une matière qui m'est inconnue. Donc, j'ai pris le coutre et puis j'ai commencé. Et puis, bon, je fendais déjà un petit peu avant hein, pour faire des piquets, pour faire des bricoles. Donc, j'ai mordu dedans et puis après, j'ai trouvé un bouquin qui finalement a conforté ce que j'avais découvert et puis qui m'a appris énormément de choses sur notamment l'historique, quoi, hein, l'historique de la bardellerie. Et puis voilà, quoi. Et puis de façon régulière, ben, on fait des manifestations pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a, il y a un créneau, quoi. Il y a un créneau. Et puis j'ai le souvenir des premières personnes que je voyais quand on faisait la fête d'ébattage qui me disaient « Mais c'est en bois, l'eau passe à travers. » Et les gens n'avaient pas compris que même que ce soit en bois, l'eau ne passait pas à travers. « Ah non, on ne vous croit pas, c'est en bois, l'eau passe à travers. » Et donc je lui ai fait la réflexion, j'ai dit « Mais attendez, le vin, comment est-ce qu'on le... »
Ou les bateaux.
Comment est-ce qu'on le fait, ou les bateaux, voilà. « Ah ben oui, effectivement, ouais, mais je n'avais pas vu comme ça. » Donc ils pensaient que par forte pluie, le fait que l'eau tombe régulièrement, ça finissait par mouiller le bois et que ça passait au travers. Moi, je suis prêt à faire partager l'expérience que j'ai. Hein. Celui qui veut voir comment on fait, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà le bardeau. Donc, ça gagne à être connu. Ça gagne à être connu.
Quelques mètres de l'atelier Bardeau mené par Christophe Méraud, Moïse André et Albert Jarton, paysans locaux, font des démonstrations de la fabrication de piquets.
Vous allez me dire que je le prends à l'envers. Non, vous n'allez pas dire ça.
J'aurais pas su.
Non, parce que le bois, il a un sens. Dans le sens du nœud.
Eh oui. Et là, en fait, vous faites quoi là? C'est juste pour enlever les parties qui dépassent?
Oui, voilà, je m'amuse là. Et, et avant, il faut le pointer, il se pointe à ce bout là.
D'accord. Oui,
on le pointe et puis après, on le... Voilà.
Parce qu'en fait, il faut écorcer, c'est ça?
Voilà.
Il faut enlever toute l'écorce.
Voilà.
D'accord. En fait, vous utilisez le... La machette comme ça, c'était un peu comme une plane, mais bon, c'est la plane de l'époque.
Autrefois, on le faisait avec la serpe.
La serpe, oui.
Voilà. Même celle-là ne va pas très bien, c'est pour faire voir, mais autrement, les serpes, pour les piquer, le bec était plus long, vous voyez, là.
Il faut l'aiguiser assez souvent, j'imagine.
Oh oui, mais il ne faut pas couper les cailloux avec.
Non.
Et oui, et ce qu'il y a, c'est que dans la mousse, au fur et à mesure que le bois pousse, il y a de la mousse qui remonte. Et alors il faut faire attention de ne pas mettre le taille dans la mousse, parce que la mousse remonte le sable. Et le sable, il vous ébrèche le taille de votre serpe. Voilà. Et oui, c'est de savoir.
Pour la durabilité enfin, de piquets, ça dépend un peu d'où ils viennent.
D'où ils viennent, oui. Alors, ça dépend du terroir. Parce que vous avez des terroirs auxquels le bois est meilleur que d'autres.
C'est le sol ou...
Oui, on dit le terroir, c'est le sol.
Et l'exposition, enfin, par rapport au nord...
L'exposition également, qui joue dans la durée du piquet lorsque vous faites une clôture.
J'étais impressionné par le vanier. Il a expliqué que très souvent on cherche des tiges, mais qui ont poussé au nord, à l'ombre.
Voilà. Pour le bois de châtaignier, pour le piquet, c'est exactement la même chose. Mmh. Et lorsqu'un bois, on appelle revenant et profiteux, il est plus facile à fendre que celui qui met des années pour pousser. Mmh. Il se fend très mal. Mmh. Comme pour le vanier. Le vanier, c'est ça d'ailleurs. Mmh. Voilà.
Mais lui, il a dit que c'était mieux pour le vannerie, le bois qui a poussé très lentement.
Oui, parce que, puis tout d'abord, il se plie mieux. Mm-hmm. Voilà, il se travaille mieux.
Oui.
Voilà, parce que lui, la vannerie, il le fend, son morceau de bois en quatre, et ensuite en déroulage. Il fait sa clisse.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et autre chose que vous avez expliqué avant, c'est qu'il y a des méthodes pour assurer que le bois tient encore plus longtemps dans la terre.
Voilà. Et le bois, il tient mieux, c'est quand vous le coupez entre le 15 décembre et le 15 janvier, lorsque la sève est complètement descendue.
D'accord.
Voilà.
Mais il y a aussi une méthode, vous avez expliqué, par rapport de brûler, de chauffer en quelque sorte un peu le bout.
Le bout du piquet. Oui, ça assure une meilleure conservation dans le sol.
Mmh. On le fait comment ça?
Ben on le fait brûler dans un tonneau ou à un feu libre, voyez, et on met le piquet couché tout le tour en couronne pour que le feu brûle le piquet.
Mais juste...
Il faut le tourner de temps en temps. Il faut le tourner,
voilà.
Parce qu'il va brûler une face, mais pas l'autre.
Oui,
c'est pour ça qu'il faut le tourner.
C'est juste l'extérieur qui brûle, en fait. C'est juste une espèce de petite couche.
Ça. Oui, une toute petite couche. Mm. Lorsqu'il fait une petite pellicule de charbon, vous l'enlevez.
Et ça empêche que ça pourrit.
Voilà, ça pourrit moins vite. Oh, ça pourrit quand même, mais moins vite.
D'accord.
Ben oui. Voilà.
D'avoir un bâton, tu prends à peu près le tiers au milieu et tu vas faire deux coudes.
Vous voulez pas faire aussi?
Alors, avec la longueur que tu as de bâton, ça sera pas si large que ça. Hein.
Moi, j'ai jamais fait.
Il va falloir que tu coudes. Je vais peut-être me mettre à côté de toi. Et tu vas commencer à doucement à tirer sur ton bois pour sentir qu'il commence à plier sous le genou.
En le déplaçant.
Voilà. Parce que tu le coudes sur un nombre de centimètres assez important. Ça dépend de la grandeur de la hanse, mais sur 10 centimètres par exemple.
Okay.
Voilà, la pliure, elle est...
Ah oui, là on voit les plis à l'intérieur.
Voilà, okay. Parce qu'il y a l'écorce, sinon on ne le voit pas. Mais je préfère laisser l'écorce, parce que quand le soleil sort, là on est... Voilà, donc tu le fais sur une dizaine de centimètres. Après, c'est toute une question de sensation.
Ouais, je flippe de le casser.
C'est pas grave, mais... Je peux te montrer sur un autre, t'es pas prêt de le casser en faisant comme ça. Ah ouais. La chose que tu peux faire et qui n'est pas bonne, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Et mon morceau. C'est ça.
Vous avez sans doute compris, nous sommes maintenant dans un atelier de vannerie. Il est mené par Alain Malaverne, qui est passionné par cette activité. Il nous a montré des techniques qui demandent très peu de matériel, un couteau et une corde.
Moi, j'apprends ça petit à petit auprès des gens du pays qui ont encore ce savoir. Et la plupart du temps, ils n'ont même pas conscience que c'est un savoir. Donc c'est assez compliqué, c'est assez ambigu. Il faut bien se rendre compte que les gens qui possèdent encore ce savoir, ils ont envie de le transmettre. Ils ont envie de le transmettre, mais ils ont aussi une réticence que les personnes qui vont venir les voir pour apprendre à faire un panier, pour apprendre à travailler le châtaignier pour la vannerie, vont peut-être leur voler une partie d'eux-mêmes. C'est un peu compliqué, mais quand on leur montre qu'on s'y intéresse vraiment, ils sont complètement, complètement ouverts à transmettre. Alors l'exemple, c'est un peu la balance à plateau. D'un côté, il y a ce gars qui vient, là je le connais pas, il va peut-être me voler une part de moi-même. Et puis d'un autre côté, il y a oui, mais quand même, ça serait bien que j'arrive à transmettre, que ça ne disparaisse pas. Que... Donc en fait, moi, ce que je conseille aux gens, même des gens qui n'ont jamais fait de vannerie, eh bien, c'est de faire quelque chose qui s'appellera comme on veut. Hein.
Il y a pas mal de temps, c'était un peu dans quasi toutes les fermes ou beaucoup de fermes qu'on faisait des paniers. Quoi.
Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des fermes. Alors quelquefois, il y a des gens qui me disent « vous avez un beau métier ». Mais ce n'était pas un métier au sens où on l'entend maintenant. La personne qui faisait les paniers en châtaignier, il n'en vivait pas. Il y a 100 ans, il y a 80 ans, les personnes qui vivaient sur le pays, elles étaient la plupart du temps petits paysans, disait-on à l'époque, sans la connotation péjorative qui est apparue par la suite. Maintenant, on dirait petit agriculteur, polyculture. Et puis, ceux qui savaient faire les paniers en châtaignier, ben, ma foi, à la veillée, ils faisaient les paniers en châtaignier. Et celui qui ne savait pas, quand il voyait son voisin, il lui disait « tu me feras un panier en châtaignier ». Et quand le panier en châtaignier revenait prêt, ben en échange, il lui donnait un poulet, un lapin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu, malheureusement.
Et le châtaignier, pourquoi c'est particulièrement adapté à ce travail ?
C'est adapté parce que ça fait partie en Limousin. Et quelque part, on est aussi Limousin ici, même si on n'a plus le même paysage, même si on n'est plus sur le sol de type granitique, même avec le châtaignier, on fait tout. On se nourrit, on nourrit les animaux, on en fait les toitures, on en fait les planchers, on en fait les meubles, on en fait les paniers, on se chauffe avec. Le châtaignier, on a tendance à dire l'eau c'est la vie, et en Limousin, le châtaignier c'est presque la vie aussi, parce que sans châtaignier, on fait rien. Donc c'est vraiment...
J'ai remarqué quand ils ont fondu des poteaux, là, c'est vraiment des piquets. C'est extraordinaire, en fait, à quel point c'est vraiment relativement simple à faire et qu'on démarre à fondre et ça, jusqu'au bout, ça va facilement. Et on a l'impression avec le vannerie, c'est un peu semblable, qu'il y a vraiment une fibre qui est très, très...
Il y a une fibre qui arrive à être très, très serrée, suivant la vitesse à laquelle grossit le bois. Alors effectivement, pour les piquets ou pour le bois de charpente, ça n'a pas une importance capitale. Mais quand on veut faire des clisses en châtaignier, il va vraiment falloir trouver un bois qui a poussé lentement, mais qui n'a pas non plus un diamètre excessivement important, pour pouvoir arriver à fendre et à faire quelque chose, donc des éclisses de châtaignier, qui soient assez souples pour être tressées. Donc là, c'est pour ça qu'on va rechercher un bois qui a poussé lentement.
Mais ça veut dire apparemment au nord, un peu à l'ombre, etc. C'est
alors ça ? Après, il y a plein d'histoires. Déjà, on le coupe en lune vieille. Alors certains disent lune descendante, mais la lune descendante et la lune vieille, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va dire en lune vieille. Certains vont dire qu'il faut le couper sur des bois qui sont au nord. Et puis d'autres vont même aller jusqu'à le couper par vent du nord. Pourquoi ? Parce qu'au nord, le bois pousse moins vite. Je connais des messieurs d'un certain âge qui font des paniers en châtaignier qui ne regardent pas la lune. Mon expérience personnelle pour faire les éclisses.
Les éclisses, c'est quoi exactement ?
Les éclisses. Ces petites lames de châtaignier très minces qui vont servir à tresser le panier, qui va correspondre à l'osier qui est beaucoup plus connu du grand public. Moi, pour mon expérience personnelle, c'est du bois pour faire des éclisses coupées en lune jeune, coupées en lune vieille. Coupées en lune jeune, j'arrive pas à les faire. Coupées en lune vieille, ça va nettement mieux.
C'est vraiment juste un millimètre ou deux,
et
ou je sais pas quoi.
Le but est d'arriver à avoir des éclisses assez fines pour pouvoir être tressées. Alors bien sûr, si on fait une vannerie plutôt grande, pour qu'elle soit solide, il va falloir quand même avoir des éclisses qui aient une certaine épaisseur. Quand on fait de la vannerie plus fine, donc des paniers plus petits par exemple, on va avoir des éclisses un peu plus fines.
Venons-en maintenant à un autre métier qui fait partie de la filière bois, celui du mérinier. Michel Mazot est propriétaire d'une forêt à 4 km de la ferme de Thibault et Muriel et il pratique ce métier peu connu.
Je fabrique des mérins. Les mérins, c'est la partie du bois qui va constituer donc le tonneau. Et donc, moi, je vais choisir mes bois en forêt et je fends surtout pour le cognac. Voilà. Donc, je maîtrise la fabrication de la duelle.
Alors, c'est un bois particulier, j'imagine, souvent du chêne, non ?
Oui, c'est essentiel. Ce n'est que du chêne, oui. Et donc, dans les meilleures qualités, puisqu'il ne faut ni gel, ni picot, ni roulure, absolument rien. Il faut des bois parfaits.
Oui, un bois très régulier.
Voilà, un bois parfait, qui ne soit pas vissé, qui soit bien de fil. J'ai choisi mes bois en forêt, et on les fait exploiter. Et ensuite, en scierie, c'est moi qui fais aussi les découpes, pour amener le billon à la fendeuse. Et c'est moi-même qui fais la fente et le sillage des duels, qu'il réalise de A à Z.
Il faut travailler vert ou il faut le laisser sécher ?
Non, le travail, il faut déjà que ce soit des bois abattus dans de bonnes conditions, c'est-à-dire hors sève, et ensuite ils peuvent se conserver. Nous, on les conserve à partir du mois de juin, on les met sous l'eau pour éviter les piqûres. Mais on peut les fendre à peu près n'importe quand ensuite.
Et en fait, la forme donc, qui est courbe enfin, pour les tonneaux, ça c'est quelque chose qu'on cherche des arbres qui ont cette forme ? Ou est-ce que alors c'est avec la chaleur, avec vapeur ou...
Bien au contraire, mais ça c'est une partie que moi je ne fais pas. Je ne fabrique que la duelle, mais non, il faut que la duelle soit le plus droite possible. Elle est cintrée par la suite, elle est humidifiée et chauffée par du feu non pas par des résistances, mais par du feu. Et on humidifie la duelle et on la force à prendre sa forme. Mais avant on a donné à ce que je fabrique moi, à la duelle, on lui a donné une certaine forme. C'est-à-dire qu'on l'a aminci sur les bouts,
oui.
Et pour que ce soit plus que la partie centrale qui résiste et que les deux côtés soient pliés. Et ça, c'est plié avec des chaînes. Voilà, mais c'est humidifié et chauffé. Voilà.
Vous cherchez le chêne où ? C'est dans des forêts, disons, des très belles forêts de chêne, j'imagine.
Des forêts privées, mais nous, on arrive à s'approvisionner à 40-50 km autour de la Syrie, sans aucun problème.
Mm-hmm. En fait, c'est une très importante valorisation du bois, je veux dire.
C'est sans doute aujourd'hui la meilleure valorisation qu'on peut amener sur des produits de qualité, oui. Mm-hmm. Sur des chênes de qualité, oui.
Il y en a beaucoup de personnes comme vous qui travaillent ce métier encore en France ?
Oh, oui, il y en a encore, oui. Mais enfin, c'est un véritable métier dans le métier. Hein. C'est une spécialité qui s'apprend. Et pour cela, il faut véritablement passer beaucoup de bois.
Hein. Et vous avez fait ça avec une formation quelque part ? Ou est-ce que c'est plutôt auprès de quelqu'un qui connaissait ça avant ou...
je suis la quatrième génération de forestier dans la maison, dans la famille. Donc voilà, nous, on a appris de génération en génération. Voilà. Et on fait de la gestion forestière aussi.
Voilà. Vous êtes établi où ?
Moi, j'habite à Javerlac, mais je travaille pour une scierie à La Chapelle-Montmoreau. Mm-hmm. Mais nous sommes des forestiers. En fait, j'ai arrêté l'activité, moi, en 2007. J'avais une scierie avant aussi. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et donc, le matériel avec lequel je travaille aujourd'hui, c'est mon matériel.
Il y a des gens qui s'intéressent à ça, des jeunes ou enfin qui pourraient poursuivre ce travail ?
Ah oui, bien sûr. Et puis il y en aura. C'est simplement, ce qu'il y a de certain, c'est que peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme, on aura des difficultés d'approvisionnement. ou alors il faudra changer son fusil d'épaule, et ce sera des bois qui rentreront des pays de l'Est. Mmh. Ce qui se fait déjà, de manière plus ou moins régulière du reste, enfin, ça je ne sais pas s'il faut bien le dire, mais c'est la vérité. Et voilà. Mais autrement, oui, le Mérin, il faudra toujours du Mérin. Mais la politique forestière aujourd'hui ne va pas dans ce sens-là. Voilà. Et tout ça par rapport au bois énergie, qui, on en revient toujours au même, et qui, à mon avis, à moyen terme, sera plus néfaste à la forêt que cette espèce de bouffée d'oxygène qu'on a l'impression qu'elle amène aujourd'hui.
Mais c'est un peu comme les agrocarburants, quelque part, c'est que peut-être à petite échelle, ça peut avoir un sens, mais quand ça devient industriel, c'est vraiment problématique.
Oui, tout à fait. On est exactement dans cette problématique-là. Oui, oui.
L'exploitation forestière, comme les seules propositions que le propriétaire avait, c'est coupe rase. C'est simple. Il y a pas d'autres propositions de la filière.
Ici,
coupe rase.
Vous avez proposé ça sérieusement.
Oui, sérieusement, coupe rase. Mais vous, attendez, vous allez voir là-bas comment c'était avant qu'on intervienne. Parce que quand c'est tout fermé, et quand ça fait plus qu'un bloc complètement noir, en fait, personne ne veut mettre le nez dedans. On va continuer à marcher un peu, et après, ce qui m'intéresse justement, c'est les critiques. Du travail qui est fait. Hein. C'est de dire moi, pourquoi avoir fait comme ça ou vos réactions par rapport au travail fait dans un premier temps m'intéressent énormément, forcément.
Le dernier jour de la rencontre, nous sommes partis visiter une forêt magnifique de 140 hectares où Jean-Yves, Marco et Fred, équipe limousine de bûcherons et de débardeurs à cheval, travaille depuis 2006. Des grands chênes rouges et indigènes, des douglas, des châtaigniers et un propriétaire qui cherche une gestion bien différente de celle pratiquée en général dans la région. La balade à travers cette forêt fournit l'occasion de nombreux échanges et interrogations.
Alors on est sur une propriété de 150 hectares et ici la volonté du propriétaire c'est... de transmettre un patrimoine qui soit en état et non pas dans l'état où c'est actuellement. L'exploitation forestière classique propose la coupe rase et il n'est pas du tout intéressé par cette solution. Donc il cherche des solutions alternatives et on essaie de trouver un équilibre à tout ça.
Et si on caractérise, on peut dire que c'est un forêt qui n'a pas été beaucoup touché depuis pas mal de temps. C'est un forêt très mixte, non ?
Je pense que 70 ans en arrière, il y a eu de la plantation de douglas qui a été faite, qui n'a pas été entretenue du tout. Il y a eu des plantations de chênes américains sur un massif mené en futé jardiné classique tel que ça se faisait ici. Et voilà, tout ça s'est un petit peu mélangé et ça a évolué comme ça a voulu. On est avec minimum 50 ans sans gestion forestière.
Ce qui est rare dans la région ?
Non, ce qui est très fréquent dans la région. On s'est dit que la première intervention nécessaire... c'était de ramener de la lumière, hein, de rééclairer le sol, hein, puisque à côté, là, si on marche un petit peu plus loin, on verra que tout est complètement fermé. Ici, on va voir qu'il y a la deuxième opération à faire et qui ne s'est pas fait. On avait prévu de le faire vraiment à la suite et ça ne s'est pas fait à la suite à cause du cours du bois. Qui a chuté l'année dernière. Le chêne ici, ça a complètement dégringolé l'année dernière. Donc on a fait une petite pause, on a mis en suspens. Mais sinon, la deuxième étape, c'est de faire des trous de lumière, donc de commencer à faire un prélèvement pour vraiment aller vers une forme de forêt avec plusieurs classes d'âge, un petit peu commencer à avoir des classes d'âge différentes. Le challenge, il est là, quoi. Réussir à partir de ce massif, eh bien, réussir de le ramener vers une sylviculture avec des produits en fait qui soient intéressants pour l'exploitation forestière d'aujourd'hui. Pour nous, le challenge, il est là. Si on intervient en forêt, c'est pour réussir à avoir un produit qu'on puisse commercialiser, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est...
Pourquoi ? Alors, il parle d'un produit qui est commercialisable avec la futaie jardinée. Avec le taillis sous futaie, on pourrait commercialiser le bois de chauffage. Mais le bois de chauffage, on l'a de toute façon dans une futaie. Donc il n'y a pas d'intérêt à maintenir du taillis sous futaie. On est d'accord.
Oui, complètement. Et c'est la qualité de grume en fait du taillis sous futaie qui n'a plus de marché. Hein, donc,
vous pouvez préciser quel est l'usage qui a disparu, qui faisait qu'il y a X années on utilisait le taillis sous futaie, aujourd'hui on l'utilise plus.
Ça c'est assez marrant parce que comme ça de prime abord on peut se dire là vous reconnaissez les Douglas qui sont derrière. Hein. Bon, les Douglas derrière, voilà, aujourd'hui, il y a une grosse demande, ça vaut, ceux-là, ils valent minimum 80 euros le mètre cube sur pied. Hein. Vous allez voir les chênes, ici, là, ils valent 80 euros le mètre cube sur pied, hein, et sans problème, 80 euros, peut-être même plus. Et sur pied, hein, le Douglas. On va faire de la charpente avec. Ah, y a la grosse demande, c'est pour la charpente. Il y a des chênes qui ne font pas 80 euros le mètre cube sur pied, et on pourrait se dire, mais on a un produit de départ, le Douglas, il est demandé pour faire de la charpente, et le chêne, on ne le demande pas pour faire de la charpente. Enfin, pourquoi ? Hein, alors qu'au départ, le produit n'est pas plus cher. Bon, c'est simplement que quand on voit le Douglas du début à la fin, on sait exactement ce qu'on va faire dedans. Que dans les chênes, il y a des surprises. Hein, c'est pas évident qu'il soit comme il a l'air d'être à l'extérieur, hein, en qualité charpente. Et puis aussi, on ne construit plus de maison pour supporter du chêne vert qui lui arrive, enfin, la charpente de chêne vert, même si elle est passée à l'étuve, on ne construit plus de maison qui supporte le poids des charpentes. Tout simplement.
Espèce,
hein, du chêne non séché. Hein. Voilà. Et donc, on arrive à des paradoxes comme celui-là. On fait de la charpente en Douglas, tout simplement, parce que ça pose pas de problème et ça va vite. Voilà. C'est on est toujours dans la même logique comptable, quoi, et écrasante.
Les feuillus sont largement majoritaires en surface en France, et malgré tout, en commercialisation, en volume de bois qui circulent sur le marché de la filière, les résineux sont largement majoritaires. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile à usiner, il y a moins de surprises. La cylindricité, la conicité, les branches. Quand il parle du chêne, même le chêne en futaie jardinée par rapport à un chêne en taillis sous futaie, bon, c'est un débat, hein, mais en général, les fûts sont quand même plus longs en futaie jardinée, sont moins branchus, les branches sont moins grosses. Donc il y a un intérêt même pour le feuillu, je trouve, à passer en futaie jardinée.
Oui, quand j'ai parlé de l'aspect commercial et de l'évolution, de la transition forestière, c'est justement cette motivation, c'est d'aller vers une qualité de fût en chêne qui répondent plus à la demande du marché. Sur le massif Limousin, la filière bois n'a guère d'autres possibilités que d'être une exploitation minière, hein, d'aller chercher un produit, parce que le morcellement des parcelles est vraiment très, très important, et puis la qualité des bois est moyenne. Donc que la politique globale soit une politique d'exploitation minière, c'est tout à fait normal, enfin ça s'explique. Voilà, ça s'explique économiquement. Et ça a fonctionné pendant des années, sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience des propriétaires, un effet de mode aussi, hein, sur il faut qu'on s'occupe de notre parcelle. Des propriétaires qui ne sont plus foncièrement des gens de la campagne, mais qui deviennent des citadins, et donc il y a une vision très différente de leur forêt. Donc il y a une démobilisation des propriétaires face à cette exploitation minière.
Pour des néophytes, c'est curieux cette expression. Exploitation minière. Pourquoi minière ?
Une mine, c'est un endroit où on vient se servir. Mmh. Hein, on vient chercher un produit. Et quand j'utilise le mot exploitation minière, ça veut dire qu'une exploitation où le seul but, c'est le produit. Une exploitation qui est motivée par le produit. C'est une exploitation minière. Et peu importe ce que ça deviendra après, de toute manière c'est la forêt, donc ça repousse. Mais quel produit il y aura plus tard, on s'en fout. C'est pour ça que j'utilise le mot exploitation minière. Pour moi, il est évocateur. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas juste dans sa terminologie. Hein. Je n'en sais rien.
C'est supermarché. Ouais, ouais. C'est le même principe.
Le propriétaire ne veut pas la réponse de l'exploitation forestière classique. Parce que pourquoi l'exploitation forestière classique ne prône que la coupe rase? C'est à cause de ça. On n'y voit rien.
Des difficultés de travail.
Donc, comme on n'y voit rien, ah non, mais on pénètre même pas pour voir ce qu'il y a.
C'est le dilemme.
On coupe et comme ça on verra. Hein. Voilà, bah, ça va repousser de toute manière. Vous ne pouvez pas s'inquiéter non plus, ça repousse. Voilà. Donc la réponse, elle est due uniquement à ça. Ici, c'est comme ça.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans des peuplements qui ont une très faible valeur, hein, comme on a vu un peu chez Thibault, je peux le comprendre économiquement. Par contre, ici, c'est évident qu'en faisant ce que vous faites, c'est-à-dire en faisant du dépressage, du nettoyage, et en prélevant quelques produits de valeur, vous équilibrez très facilement l'opération. Et après, vous y voyez clair. Donc ouais. Moi, je ne comprends pas que sur une forêt qui a un potentiel comme ça, on puisse se passer de cette réflexion d'éviter la coupe rase, puisqu'économiquement, c'est assez facile de l'éviter.
Disons que c'est possible. Je vais plutôt dire que c'est possible de l'éviter, mais il faut trouver, dans le contexte forestier de la région, il faut trouver les volontés pour le faire.
Pourquoi il y a une demande de passer à une coupe de bois d'œuvre maintenant sur cette parcelle-là?
En fait, la position d'enlever des grumes de bois d'œuvre, c'était simplement pour amener de la lumière. Encore amener de la lumière. C'est ce que je me dis. Après, j'ai raison, j'ai tort.
Moi, personnellement, je pense qu'il n'y en a pas assez, mais que c'est comme dans la séquence des coupes progressives enchaînées, ça commence par une coupe préparatoire, après il y a une coupe secondaire, il y a plusieurs coupes secondaires, et puis il y a une coupe définitive quand vraiment le peuplement est régénéré. Ici, tu n'es même pas en régénération par coupe progressive, tu es dans le jardinage. Alors, moi je pense que vous avez fait la coupe préparatoire là, parce que vous avez déjà relevé le couvert, comme on dit, vous avez mis de la lumière au sol. Donc on pourrait essayer d'attendre la régénération comme ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ronces et de fougères ici, mais ce que tu risques en faisant une coupe de bois d'œuvre donc dans l'étage dominant, c'est d'avoir un développement de la végétation. Donc déjà, tu auras moins de semenciers. Hein, il faut voir ce que vous allez prélever, mais tu auras quand même moins de semenciers. Et en plus, tu risques de nouveau, entre guillemets, salir le sous-étage. Et donc de diminuer la chance d'avoir du semis. Moi, je serais prudent, et bon, c'est marqué, c'est vendu, si j'ai bien compris. Mais
ça l'est pas encore.
Ça l'est pas encore. Moi, j'attendrai un peu, voilà, mais ça sera pas... Comment ?
Un peu, ça l'est quoi.
Voilà, un peu observer, dire bon, oui, voilà...
C'est une année, deux ans, trois ans
c'est ça qui est fantastique en forêt, c'est que tu peux très bien dire j'attends un an et puis je vois par exemple les châtaigniers, attention si ça rejette à fond et qu'on a des mâts de châtaigniers partout, peut-être qu'il faudra intervenir pour mettre plus en lumière pour que les chênes s'installent. Hein, et puis peut-être que vous avez des problèmes de dégâts de gibier aussi qui vont faire que vous aurez des semis mais qui seront tous broutés. Mais pour moi on peut attendre 5-6 ans ici. Et faire la coupe les coupes progressives enchaînées, ça se passe sur une séquence de 30 ans. Il y a 4-5 coupes sur ou peut-être 3-4 coupes sur 30 ans, 40 ans.
Le problème, c'est qu'on a une activité qu'il faut qu'on invente. Hein, ce débardage traction animale, là, c'est une activité qui n'existe pas et qu'il faut qu'on invente. Qu'on a un paquet de paramètres à gérer qui ne sont pas forcément simples. Et donc, on est déjà bien bien occupé, et que maintenant il va falloir s'inventer marchand de bois.
Il y a un an déjà tu disais en amont ça va, mais c'est le problème, c'est en aval la commercialisation, et tu avais quand même des pistes, enfin tu disais que tu commences à avoir des pistes. Alors, et ces pistes aujourd'hui, enfin t'as un peu avancé sur ces pistes là ou...
Bon, les pistes sur lesquelles on espère travailler au corps à corps et qui ont le plus avancé, c'est pour les bois de merde. Saya, par exemple, International Paper. Moi, je vous dirai si je perds ou si je perds pas dans un an. Mais International Paper, j'ai envie de passer les contrats d'approvisionnement avec eux privilégiés. C'est-à-dire que quand ils viennent chercher du papier chez moi, ils le payent plus cher qu'ailleurs. parce que j'ai une image avec moi que j'espère leur vendre. Donc sous ces aspects-là, et que je sais que maintenant ils ont un bureau de la gestion durable, ils ont, enfin ils sont comme toutes les autres entreprises quoi, en train de chercher des solutions. Hein. Et je n'ai aucune honte à me vendre à ces gens-là si ça me permet de me simplifier la vie sur le terrain. Après, dans ce qui est la commercialisation des grumes, j'ai envie de dire qu'il faut être sérieux quoi. Enfin, je le vois comme ça. J'ai pas le temps et les connaissances en fait aujourd'hui pour vraiment être pointu sur le secteur. Moi, alors, ce que je rêve, c'est réussir à dégager de plus en plus d'activités qui nous permettent, pour l'instant, il y a Julien qui bosse comme nous pour Bûcheron, et comme Bûcheron, et j'en suis très satisfait. Si un jour on pouvait lui dégager du temps aussi pour s'occuper de la commercialisation, voilà, ça me plairait énormément. Mais pour l'instant, il faut réussir à articuler tout ça, quoi. Et...
Je serais d'accord avec ça.
Ah, si on... Alors là, j'en suis sûr. Si on dit au propriétaire, bon, maintenant, on s'occupe de tout et on s'occupe aussi de la valorisation et tout, oui, bien sûr, il sera d'accord. Il faudra, bien sûr, rendre des comptes, mais on est dans un schéma de confiance et je sais que nous, on ne va pas le truander. On essaiera juste de mettre les choses à leur place. Et non, ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait. C'est nous qui le faisons pas fonctionner. Hein, parce que bon, la commercialisation, je m'excuse, mais pour moi, c'est un gros problème. Vraiment problème. La qualité des bois, c'est un problème, hein, parce que s'y connaître, enfin dire ah, oui, ce bois-là, c'est ci, c'est ça, c'est pas si simple que ça. Enfin, il y a vraiment toute une connaissance là à avoir qui n'est pas simple. Et puis après, les rapports de commercialisation, bah, ils sont pas simples non plus, quoi.
Ça veut dire en gros qu'il faudrait dans une zone autour d'ici, de la petite région, arriver à avoir un espèce de petit réseau dans la filière bois capable d'assumer tous ces différents... qui bossent ensemble, quoi, qui est quelqu'un capable de connaître la valeur du bois, de faire la commercialisation, qui bosserait avec vous peut-être.
Oui, ça peut être une solution. De toute manière, enfin, les solutions vers ça, elles sont toujours les mêmes. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme piste, moi ? Eh bien, c'est plutôt qu'on travaille à une équipe, c'est de travailler à trois équipes pour mobiliser plus. La solution, j'en vois pas d'autre que celle que le schéma dans lequel on vit me propose, c'est-à-dire toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. À notre échelle, c'est à cause de la mobilisation des produits. Ça, c'est vraiment le premier souci. Et puis après, si vous détachez quelqu'un qui s'occupe de la commercialisation, et ben il faut sa part aussi dans le jeu, quoi. Et bon,
pour valoriser ton image, je te prends l'exemple des AMAP, hein. Tu connais les maraîchers qui vendent en circuit court. Tu parlais de Piper, enfin la grosse papeterie, l'international Piper, bon voilà, qui eux par contre profitent de ton image à toi et de ta démarche à toi pour eux se faire une image. Et je me dis, ça serait plus pertinent de créer un principe d'AMAP en forêt ici, où je suis sûr sur Limoges, si on commence à te connaître à travers ton image à toi, se dire voilà, il y a du bois de chauffage qui a été sorti de forêts qui sont gérées comme ça, de cette manière-là aussi travailler, et qui a tel prix et tout, que tu risques de créer un réseau de personnes qui disent « Moi, ce bois de chauffage m'intéresse, même s'il est 5 euros plus cher l'aster », et que tu vas très vite avoir un réseau qui se formera, et là, ton commercial devient intéressant parce que c'est lui qui met en contact en écoulement direct. Et je crois que ce circuit court est nettement plus payant pour toi et ton travail qu'International Piper.
À vrai dire, je suis pas sûr. Bon, on va marcher pour aller manger et on rediscute de tout ça.
D'accord.
Mais je réponds tout à l'heure.
C'était chez Marie et Thibault en Dordogne. Deuxième partie, c'était la sixième émission dans la série Entre Cimes et Racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières.